L'ouverture des marchés américains comme tous les jours avec nos deux spécialistes. Étienne Brack en direct du siège d'Euronext, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour à tous les deux, je suis ravi de vous retrouver. Étienne, la séance vient de démarrer il y a 2 minutes aux États-Unis.
Et c'est du vert, notamment pour l'indice Nasdaq qui grappille 0,5% à la porte des 16 000 points. Vous avez le Dow Jones qui prend 0,3% à 37 934 points, quand le S&P 500 prend également 0,5% à 5 074 points. Le S&P 500 et le Nasdaq qui sortent de 3 séances dans le rouge. À noter que l'obligataire se détend, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le marché action. 4,62, c'est une perte de 4 points de base, quand le 2 ans de son côté perd 2 points de base à 4,95. Du côté des devises, vous avez l'euro-dollar qui essaye de se prendre un petit peu, 1,0645, alors que vous l'avez dit, Jerome Powell hier a une nouvelle fois éloigné les baisses de taux en disant eh bien, que les taux pourraient rester ainsi autant de temps que nécessaire, et puis surtout que les dernières statistiques macroéconomiques n'avaient clairement pas renforcé la confiance des membres quant à l'objectif de rejoindre rapidement l'objectif de 2% d'inflation. Du côté des valeurs aujourd'hui, dans un instant, on parlera de United Airlines qui s'envole, hein. John nous expliquera pourquoi. Mais juste avant, un coup d'œil quand même sur l'une des stars de ces derniers mois à Wall Street, c'est Eli Lilly, hein. Vous savez, grâce notamment à son traitement anti-obésité, eh bien aujourd'hui, ce premier laboratoire mondial en termes de capitalisation boursière annonce des résultats prometteurs, notamment pour l'apnée du sommeil. Donc suite à cela, eh bien vous avez ce titre qui se rapproche de son record historique à 761 $ à l'instant. Et puis, autre valeur aujourd'hui à surveiller, c'est Tesla, hein, qui a perdu 8% en l'espace de 2 séances et qui continue aujourd'hui de sous-performer, avec le groupe qui va soumettre à nouveau à ses actionnaires un plan de rémunération en ce qui concerne Elon Musk. Une grosse bataille avec la justice, hein, qui, souvenez-vous, avait débouté Elon Musk au point qu'il avait décidé de déplacer le siège de la société. Et ce titre Tesla qui perd 0,6% dans les premières secondes de cotation, et donc une tendance positive à Wall Street avec 3 indices américains qui gagnent entre 0,4% et 0,5%.
Et c'est le rebond également sur le marché parisien. Le CAC progresse de 1,45%. On est repassé très nettement au-dessus de la barre des 8000 points qu'on avait cassé hier. On y reviendra en détail tout à l'heure à partir de 16h. Toujours avec vous, Étienne Brack. John Plassard, on va s'intéresser d'abord aux publications macroéconomiques du jour. Les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis, elles ont augmenté de 3,3% sur une semaine. Je crois que la semaine précédente, on était pratiquement inchangé. Mais surtout, le taux moyen à 30 ans, il est à 7,13%. Et ça, c'est un plus haut niveau depuis décembre dernier.
Exactement. Et Étienne, ce que ça nous dit, en fait, c'est que on pourrait se dire qu'avec des taux hypothécaires si élevés, vous savez que les Américains bloquent à 30 ans leurs taux hypothécaires, mais on pourrait se dire qu'avec des taux hypothécaires aussi élevés, eh bien, les Américains ne feraient pas de demande de prêt hypothécaire. Mais apparemment, cette hausse de 3,3% que vous avez relevée, eh bien, traduit le fait que les Américains aimeraient bloquer un taux avant que potentiellement celui n'aille plus haut. Celui-ci n'aille plus haut à 30 ans. Donc on voit qu'on a un rebond. Il faut rappeler ici, on avait parlé hier ensemble, Étienne, que les mises en chantier avaient nettement baissé aux États-Unis. Donc on voit qu'il se passe quelque chose sur le secteur immobilier et que les taux élevés qui vont continuer à être élevés, eh bien, commencent à impacter le consommateur américain.
Et on verra tout à l'heure dans le club justement comment cette évolution peut influencer la Fed, peser sur la décision de laisser ou pas les taux inchangés jusqu'aux élections américaines. Étienne, justement, on va continuer de parler des banques centrales, on va garder un œil aujourd'hui sur la Fed avec la publication ce soir de son fameux livre beige.
Le tout à 15 jours de sa prochaine réunion, puisque ça sera le mercredi 1er mai que Jerome Powell prendra la parole. Alors, comme toujours, John Plassard, 15 jours avant chaque réunion, il y a ce fameux livre beige qui est publié par la Federal Reserve. Ça donne un petit peu un coup d'œil, hein, de ce qui se passe dans chaque État des États-Unis d'un point de vue macroéconomique.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus important que les minutes qui sont publiées après la réunion de la Réserve fédérale américaine, puisqu'on sait exactement quelles sont les vigueurs, vous l'avez dit, dans les différents États des États-Unis. Eh bien, ce soir, très certainement, le fameux Beige Book va nous indiquer que l'économie américaine est beaucoup trop virulente, que ça se traduit notamment par la hausse des ventes au détail, par l'inflation qui est trop élevée, et vous avez des données relatives à l'emploi qui sont beaucoup trop élevées. Donc on va être dans une situation où aujourd'hui, eh bien, plus aucune baisse de taux ne sont à prévoir pour juin prochain. Pour l'instant, le consensus parie sur 40 points de base de baisse avant la fin de l'année, mais il faut rappeler qu'en début d'année, on était à 160 points de base. Et vous vous souvenez, on en a parlé ensemble aussi, Étienne, eh bien, ce fameux no landing. Vous savez, on était dans le hard landing, le soft landing. Maintenant, on est dans le no landing où potentiellement, eh bien, la Réserve fédérale américaine, à cause des données statistiques trop importantes qui vont certainement être relayées ce soir à travers le Beige Book, pourrait ne pas baisser les taux avant la fin de l'année.
Et justement, John, on a repéré votre tweet, votre publication sur le réseau social X. On y reviendra d'ailleurs dans la famille tout à l'heure à partir de 16h30. On débattra autour de cette question du no landing. 15h39 bientôt, rendez-vous quotidien sur notre antenne, les élections américaines. Nous sommes à 201 jours du scrutin aux États-Unis et on va s'arrêter aujourd'hui sur un chiffre qui aiguise un petit peu notre curiosité. Il s'agit du salaire de Joe Biden qui vient d'être publié. John, je vous laisse annoncer ce chiffre. Ça gagne combien un président américain en exercice ?
Bah écoutez, c'est une très bonne question et le chiffre, je vais vous le donner. Pourquoi ? Parce qu'il est public, ce chiffre. Le dépôt avait été fait hier, c'était le dernier moment pour faire ses impôts. Et tenez-vous bien, un président américain gagne par année 400 000 dollars. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que la première dame, c'est-à-dire la femme de Joe Biden, elle a gagné 219 000 dollars parce qu'elle travaille aussi, elle est professeure, notamment dans une université aux États-Unis. Et donc le couple a déclaré hier un salaire de 619 000 dollars. Et dessus, ils ont payé un impôt fédéral de 23,7%. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que vous allez me dire, pour un président américain, 400 000 dollars, c'est pas énorme. Eh bien, on sait que c'est lorsqu'il arrêtera, Joe Biden, lorsque le président arrête et qu'il fait des conférences, comme l'avait fait notamment Bill Clinton, et c'est là qu'il gagne de l'argent, ou lorsqu'il écrit un livre. Et pour la petite anecdote, il faut rappeler une chose assez intéressante, c'est lorsque Donald Trump était président, il avait renoncé à ses 400 000 dollars, puisque vous savez très officiellement que Donald Trump est milliardaire et qu'il avait dit qu'il ne valait, ça ne valait pas la peine d'avoir un salaire en tant que président des États-Unis.
400 000 dollars, est-ce qu'il paye à la cantine de la Maison-Blanche, vous pensez, John ?
Je ne pense pas, mais peut-être pour un extra de dessert. Oui, on sait qu'il aime beaucoup le chocolat, Joe Biden.
Allez, on passe à l'actualité entreprise avec Étienne. Vous le disiez, Étienne, en démarrant cette demi-heure, de très très bonnes nouvelles ont été annoncées dans le secteur aérien.
À commencer par United Airlines qui s'envole, sans mauvais jeu de mots, de 10% aujourd'hui. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué, John Plassard, pour United Airlines. Depuis le début de l'année, le titre fait rien. Il fait rien depuis un an. Et pourtant, la dynamique est très bonne, que ce soit pour l'entreprise, mais dans le secteur, pour son ensemble. On l'a encore vu hier avec des statistiques qui montraient que le secteur du voyage est en pleine forme.
Oui, un bénéfice, Étienne, qui est largement au-dessus des attentes. Le bénéfice ajusté sera pour le prochain trimestre entre 3,75 et 4,25 dollars. Alors, tenez-vous bien que le consensus attendait 3,76 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que United Airlines nous dit que les demandes pour les voyages sont très importantes. On vous l'avait dit, on en a parlé hier. Les Américains ont il y a un nombre record d'Américains qui veulent traverser l'Atlantique ou aller dans d'autres pays que les États-Unis. Ben là, on apprend aussi qu'au niveau domestique, les Américains ont déjà fait des réservations. Donc, pour le secteur du tourisme, c'est une très, très bonne nouvelle.
On continue dans l'actualité entreprise avec ce médicament, John, qui n'en finit pas d'intéresser, évidemment, les investisseurs, médicament contre l'obésité. Et le laboratoire Eli Lilly a annoncé que son médicament contre l'obésité avait également produit des résultats concluants sur les patients atteints d'apnée du sommeil.
Oui, c'est un médicament absolument extraordinaire dans tous les sens du terme. Il s'appelle le Zepbound. On sait que c'est un médicament d'abord pour les diabétiques. Maintenant, il est utilisé aussi contre l'anti-obésité. Mais on sait qu'il réduit apparemment, c'est ce qu'on nous a dit hier, la fréquence de la respiration irrégulière chez le patient souffrant d'apnée du sommeil. Vous l'avez dit, jusqu'à 63% en moyenne dans le cadre de deux essais en phase finale. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que ce médicament n'est pas simplement pour perdre du poids, mais il est pour les diabétiques et aussi pour l'apnée du sommeil. Donc très bonne nouvelle pour Eli Lilly ici.
Et puis Étienne, on termine toujours dans l'actu entreprise avec un chiffre qui concerne le secteur de la communication et de la publicité aux États-Unis.
Et après Publicis la semaine dernière, c'est Omnicom qui dévoile son chiffre d'affaires du premier trimestre. Et ça a plu au marché aujourd'hui, John Plassard, puisque la valeur gagne 1,6%.
Oui, c'est assez intéressant de le noter parce que on sait que c'est un acteur qui offre des services de publicité, de marketing et de communication. Et puis, on a un chiffre d'affaires qui est sorti largement supérieur aux attentes grâce à la forte demande de ces services de publicité. Et vous savez qu'en fin d'année passée, eh bien, on parlait de plus en plus de la baisse de la publicité, des demandes de publicité parce que les budgets devenaient de plus en plus faibles chez les annonceurs. Eh bien, on voit ici que la demande est en train de reprendre. Donc, c'est une nouvelle, très bonne nouvelle au niveau économique pour les États-Unis et pour, bien évidemment, Omnicom.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau.